Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique, animé par Lamine et Richard.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère, 88.4 FM et sur radiogalère.org de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous. Bonjour Lamine.
Oui, bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Galère. Je commence cette émission avec une très grande tristesse car Marseille n'a pas été épargnée ces derniers temps avec son lot de décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons perdu à Marseille un jeune, Daouda Nia, celui que j'appelais Grand Daouda. Il est parti, que Dieu l'accueille au paradis. Je présente toutes mes condoléances à son épouse, Madame Nia, et bien sûr à toute sa famille, sans oublier mes amis de Cour Belzunes, car très souvent après le boulot, vers 17h30, 18h, nous refaisions donc toute l'actualité politique du Sénégal, avec des débats houleux, mais toujours très respectueux. Motax mang koy jale sama grand yi nga xamne ñun ñep dañ dan tok Cour Belzunes def politique bi muy grand Gagne, grand René Mendy, donc grand Mamor, Imam Alkali, grand Issa Kouyaté, grand Moïse, grand Amadi Kane, Cheikh Thiam, voilà, yeen ñep vraiment man leen koy jale. Et je présente également Richard toutes mes condoléances à notre chanteur international à Marseille, donc Soprano qui a perdu son père. Et j'ai une pensée très, très forte à une personne très discrète, très humble et qui est d'une grande importance pour Soprano. Tu te reconnaîtras, je te dis tout simplement du courage. Voilà donc Richard, le malheur qui est tombé en tout cas sur Marseille et ses environs.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Voilà Richard, donc maintenant nous allons aller donner la parole au directeur des bourses, le numéro 1 des étudiants. Il s'agit de M. Émile Barou, chef du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. M. Émile Barou, bonjour.
Bonjour M. Lamine Diakhaté.
En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes un homme très pris et puis en plus, vous êtes en période de deuil. Déjà, toutes nos condoléances.
Merci beaucoup.
Voilà, donc sans plus tarder, la première question. Pouvez-vous décrire au jour d'aujourd'hui la situation de nos étudiants sénégalais à l'étranger? Avons-nous des malades, des décès et quels sont les types d'aide que vous avez mis en
place? Oui, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez, qui nous permet aujourd'hui d'échanger avec la communauté étudiantine. Et comme vous le savez, depuis quelques mois, nous vivons une crise sanitaire inédite et assez particulière. Et suite à ces conséquences que nous avons tous notées dans les différents pays où cette maladie a sévi, il y a eu des dispositifs d'aide destinés à nos compatriotes. Pour ce qui nous concerne au Sénégal, le président Macky Sall a décidé d'octroyer à la diaspora 12,5 milliards pour les venir en aide, afin qu'ils puissent faire face aux conséquences de COVID. Pour ce qui est des étudiants, au jour d'aujourd'hui, nous avons comptabilisé quelques étudiants qui sont testés positifs, Donc, ils sont au nombre de 10 au moment où je vous parle. D'accord. Autrement dit, des étudiants qu'on a contactés et qui ont donné les justificatifs attestant qu'ils ont été testés positifs.
D'accord. Et combien ils reçoivent, combien, de quel montant ils vont recevoir?
Pour les étudiants qui sont testés positifs, et d'ailleurs pour l'ensemble de nos compatriotes qui sont testés positifs, ici en France, le président a décidé de leur apporter une aide financière à hauteur de 500 euros. Qu'ils soient étudiants ou un autre compatriote sénégalais testé positif, ils ont un montant de 500. Et pour les autres étudiants qui sont non allocataires d'une bourse du gouvernement du Sénégal, ils ont un forfait minimal de 200 euros.
D'accord. Mis à part l'aide financière que vous mettez en place, est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement pour pouvoir mieux les encadrer?
Alors, il y a quand même ce dispositif d'accompagnement, puisque juste quelques jours après l'éclatement de la crise, moi-même avec les agents du SGE, nous avions pris le soin d'adresser à nos étudiants allocataires des mails de soutien et de solidarité. Et nous avions mentionné à notre abonné pour qu'ils puissent transférer ces messages de soutien et de solidarité à leurs camarades dont on disposait de contact, en tout cas d'adresse mail. Un autre canal que nous avons aussi utilisé, ce sont les associations. J'ai répertorié un certain nombre de contacts de présidents d'associations à qui aussi on envoyait assez régulièrement des messages pour prendre des nouvelles, mais également pour les encourager face à cette crise qui sévit, en tout cas ici en France et dans d'autres pays. Et nous avons continué ce contact parce qu'au-delà du soutien financier, à mon avis, il est très important qu'on puisse les apporter un soutien moral pour supporter cette situation qui est assez difficile pour tout le monde. Mais je crois que dans l'unité et dans la solidarité, nous pourrons faire face et sortir victorieux de cette crise sanitaire.
Voilà, je disais tout à l'heure, M. Emile Bahoum, que vous vous occupez de tous ces étudiants qui sont en détresse. Est-ce que justement, vous avez des nouvelles de nos étudiants qui sont en Chine?
Et au moment où la crise était à son paroxysme dans une certaine mesure en Chine, nous avions mis en place un dispositif. Aussi bien ici, au sein des SGE, nous prenions assez régulièrement des nouvelles. Ils étaient 13 à Wuhan. Et donc, j'étais à mesure de pouvoir les appeler et d'échanger avec eux pendant longtemps pour leur remonter leur moral, pour leur apporter aussi le soutien de l'État. Au-delà des gestes financiers que le président aussi avait fait à leur endroit. Au niveau du Sénégal aussi, il y avait ce même dispositif d'écoute, un comité de suivi qui pouvait les appeler et échanger avec eux. Le secrétaire d'État aussi était mobilisé. Et en Chine, l'ambassadeur aussi était régulièrement en contact avec eux. Et jusqu'aux dernières nouvelles, tout se passe bien et tout se passait bien au-delà du fait qu'effectivement, c'est normal, ils avaient peur, ils avaient des craintes, mais à mon avis, aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est bien passé. Alors, je ne peux plus avoir la régularité des contacts que j'avais avec eux, dans la mesure où maintenant, l'épidémie a connu une haute envergure, c'est-à-dire elle est devenue mondiale. Donc, en France, au Maroc, au Sénégal, ailleurs, dans le monde, l'épidémie est en train de sévir et il faudra apporter la attention à nos étudiants qui poursuivent aujourd'hui leurs études à l'étranger.
Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une situation exceptionnelle de coronavirus, mais en temps normal, est-ce que nos étudiants ont des difficultés particulières pour le monde et quelles sont en tout cas les moyens que vous mettez en place pour leur venir en aide toute l'année?
Alors, les difficultés que les étudiants nous font parvenir sont souvent liées à la situation de leur précarité. Nous avons été étudiants. Il est vrai que ce segment de la société ne sont pas les mieux nantis de notre société. Donc, cette question-là, elle est là, elle existe. L'État du Sénégal, depuis des années, je vais dire depuis 1979, apporte une aide aux étudiants. C'est ce qu'on appelle les allocations ou ce qu'on appelle les bourses. Ce qui, aujourd'hui, est en grand effort, mais qui reste inférieur à la demande. Il y a beaucoup de sollicitations parce que ce qui se passe au Sénégal, c'est que ce n'est plus l'État qui sélectionne en nombre à qui il donne une bourse qui vient, mais il y a beaucoup d'autres étudiants qui viennent de leur propre moyens. Et ils sont rattrapés par les réalités des pays d'accueil. Et souvent, ce n'est pas évident. Et là aussi, chaque année, nous octroyons des bourses en nombre d'étudiants. Il reste un nombre qui n'est pas négligeable, mais tout compte fait aussi, on doit comprendre qu'on ne peut que donner ce qu'on a. En fonction de l'enveloppe qui est disponible, nous attribuons chaque année des bourses à nos étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger. Et de plus en plus, avec la nouvelle réforme, nous orientons nos aides vers les filières scientifiques, donc je veux dire sciences de l'ingénieur, les mathématiques, l'agriculture. Voilà les filières vers lesquelles nous souhaitons aujourd'hui orienter nos étudiants. En tout cas, nous souhaitons orienter notre accompagnement parce que le pays en a besoin pour son développement économique et social. D'autres problèmes, c'est maintenant, il peut y avoir des problèmes liés au titre de séjour, un problème lié au logement, un problème lié à certaines inscriptions. Et là aussi, à chaque fois qu'on est sollicité, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de leur trouver des solutions. Après, le plus important, c'est qu'il y ait ces obligations de moyens et non pas de résultats. À chaque fois qu'on est touché ou informé d'un problème rencontré par nos étudiants, nous tentons d'apporter des solutions pour les aider à réussir leur projet d'études.
Une dernière question. Est-ce que aujourd'hui vous jouez un rôle quelconque dans l'insertion professionnelle des étudiants dans les pays d'accueil, mais aussi dans le pays d'origine? Que faites-vous concrètement?
Cela fait partie effectivement des missions optionnelles que nous voulons rajouter, qui sont rajoutées déjà hein, parce que mon prédécesseur, M. Moïssa, a mis, en tout cas, a posé quelques pas qui étaient salutaires. Et moi, en tant que successeur, l'idée, c'est non seulement de consolider cet acquis, mais de le renforcer dans la mesure du possible. Et donc, ça consiste à quoi? Essayer de trouver des partenariats avec des entreprises qui peuvent accueillir les étudiants pour des stages et quelquefois pour un emploi. Et que ça soit dans les pays d'accueil ou au Sénégal, vraiment, on est en train de prendre langue avec quelques entreprises pour essayer de peaufiner des tuyaux qui faciliteraient l'insertion professionnelle des étudiants. Après, ce n'est pas une chose facile. La preuve est que les étudiants laissés à eux-mêmes, il y a beaucoup qui rencontrent des difficultés. Et nous, on sera là pour accompagner. Et quand je dis accompagner, je veux qu'on donne un sens propre à ce mot. Accompagner n'est pas prendre la chose, on ne sera pas devant. On les accompagne, on les bouscule parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, si par exemple on discute ou on échange ou on trouve une convention avec une entreprise, il appartiendra à l'étudiant une fois que l'offre lui sera donnée, qu'il puisse quand même défendre ses compétences, qu'il puisse défendre ses motivations pour qu'on puisse le recruter. Là-dessus, on sera là pour faciliter, orienter et demander à certaines entreprises de donner une certaine faveur à nos jeunes étudiants qui ont fini leur formation. Il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, ensemble avec eux, nous essayerons d'accompagner le maximum pour qu'ils puissent s'insérer assez facilement.
Merci beaucoup, M. Émile Bahoum. Donc, je rappelle à nos auditeurs, mais aussi aux étudiants de la diaspora, que nous étions avec M. Émile Bahoum, chef du service de gestion des étudiants sénégalais et étrangers. Juste avant de vous laisser partir, parce que moi, j'aime bien aussi avoir des montants. Quel est le montant des bourses? Y a-t-il différents montants ou y a-t-il le montant unique?
Non, il y a différents montants. Par exemple, à titre d'exemple, j'allais dire, pour ce qui est des boursiers d'excellence, le montant, il est passé depuis l'arrivée du président Macky Sall avec la nouvelle réforme, il est passé de 373 à 650. Ce sont de nos jeunes qui ont la mention bien ou très bien et qui ont une inscription dans une grande école ou qui ont une distinction au concours général. Après, il y a toujours ce taux, il y a les bourses qui sont à 373 euros pour ceux-là qui sont à Paris, parce qu'il y a l'aide au logement qui fait la différence entre ceux qui sont à Paris et ceux qui sont en province. Ça diffère, le montant diffère aussi suivant le pays, les taux diffèrent. Le taux de Paris ou le taux de la France n'est pas le même avec le taux des pays arabes ou des pays en Afrique. Il est indexé plus ou moins au niveau de vie des pays d'accueil. Mais il y a différents, il y a ce qu'on appelle l'aide d'État. Par exemple, en France, il est de 198,98 €. La bourse, il est de 221 €. Et à cela, il faudra rajouter l'aide au logement, ensuite l'aide aussi à l'équipement. Donc, en province, ils reçoivent l'aide au logement et la bourse 297 et à Paris 373. Et quand c'est l'aide, c'est 198, ça ne diffère pas, qu'on soit à Paris ou ailleurs, ou en province, c'est toujours 198.
Donc, si je comprends bien, le plafond est de 650 et le plancher est de 370 €.
C'est bien résumé, c'est ça.
En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Merci d'avoir pris de votre temps, monsieur le directeur. Et puis, je vous dis tout simplement, bonne continuation.
Merci beaucoup. Et en tout cas, j'en profite pour souhaiter à nos frères et sœurs musulmans un très bon ramadan. Ensuite, à nos étudiants, je leur dis, je leur réitère encore mes encouragements et je leur exprime ma solidarité totale et je reste disponible pour effectivement les accompagner dans leur projet d'études. Merci bien à vous et à très bientôt.
Merci Émile, merci, au revoir.
Merci, au revoir. Irfir li ummatihi war'am bi ummatihi wastur la wajburana arabiyallahu. اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واستر عنها ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبر عنها ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واستر عنها ربي الله.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, donc aujourd'hui nous allons recevoir une professionnelle de santé de notre genre. Donc elle s'appelle Madame Teva Gomis. Madame Teva Gomis, vous êtes psychologue. Pouvez-vous nous dire d'abord en quoi consiste votre travail?
Bonjour Lamine.
Bonjour.
Bonjour Richard. Merci pour cette invitation. Je vais juste commencer par dire ce que c'est que la psychologie, en fait. Alors, la psychologie, en fait, c'est la science qui essaie de comprendre, n'est-ce pas, et qui traite le comportement humain. Un psychologue, il est d'abord, un expert de l'humain, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne, pendant son cursus, on lui a appris, n'est-ce pas, comment fonctionnait une personne avec différentes approches. Dans la psychologie, il y a des approches qui s'affrontent. Par exemple, la psychologie clinique va dire que toi et moi, nous sommes totalement différents. Moi, je suis unique, toi, tu es unique, et Richard est unique.
D'accord.
De par, exemple, sa trajectoire, de par ses fixations, de par ses difficultés, de par ses joies, de par sa façon de vivre, de là où il vit, sa famille, ses amis, voilà.
Donc, vous étudiez la société globalement.
Voilà. Donc, ça, c'est un postulat. Chacun est unique. Il y a d'autres postulats qui vont venir dire que nous sommes tous pareils. Parce que c'est vrai aussi, nous sommes tous pareils, nous sommes constitués de la même manière, nous avons le cerveau à la même place, les yeux à la même place, les nerfs à la même place. Donc, je touche quelque chose, c'est chaud pour moi, ça va être chaud pour toi, sauf si tu as des problèmes sensoriels, en réalité. Donc, du coup, sur ce point de vue-là, pour la psychologie générale, nous sommes tous identiques. Voilà.
D'accord.
Et il y a la psychologie du développement qui vient dire que nous sommes différents par des stades. Par exemple, il y a des enfants, des ados, il y a des personnes matures, il y a des personnes qui sont dans le troisième âge, par exemple. Il y a la psychologie sociale, elle, qui va venir étudier les groupes. Le premier groupe, c'est la famille. Le groupe commence à partir de trois, en fait, le pluriel à partir de deux et le groupe à partir de trois. Donc, des groupes, des groupes de familles, des quartiers, des villages, je sais pas, des équipes. Là, c'est un groupe qu'on constitue. Là, toi, moi et Richard, voilà, c'est un groupe et nous sommes en train de co-construire une émission qui aura en fait un sens pour tout le monde, je l'espère. Voilà. Et tout
D'accord.
ça, en fait, pour t'expliquer que nous, c'est un tout. C'est-à-dire, un étudiant en psychologie va certainement être heurté de ses premières années, de ses 2 premières années, par en fait des théories et des postulats qui ont l'air de se bousculer. Mais vers la troisième, quatrième année jusqu'à la cinquième année, il va se rendre compte que tous ces postulats, en fait, ont raison et que ça fait le tout, en fait, de sa formation, quelle que soit sa spécialité, et que ça lui permet, lui, en fait, d'aborder l'humain, quel que soit l'angle, en fait, qu'on lui présente. En fait, voilà. Quand il s'agit de psychologie sociale, quand il s'agit de clinique, quand il s'agit de pathologie pour les psychologues qui travaillent avec les gens qui sont atteints de pathologie, quand il s'agit d'entreprise, quand il s'agit de famille, enfin, voilà. Donc, c'est des spécialistes de l'humain qui travaillent dans différents domaines. C'est ça ma réponse.
D'accord. Et dans votre définition, je n'ai pas entendu parler de fou. Par exemple, moi, mes collègues, quand ils commencent à me fatiguer, j'ai dit, toi, il faut que tu vois quelqu'un. Mais le quelqu'un est ironique, tout le monde sait que je veux parler du psy. Est-ce que vous vous occupez des fous ou pas?
Alors, moi, non. Moi, non, n'est-ce pas? Mais en fait, je peux détecter que, enfin, dans ma pratique, je peux détecter que cette personne-là relève qu'il y ait un suivi d'un psychologue qui s'est spécialisé dans la pathologie. Et dans ce cas, je redirige. Mais l'approche qu'on a, en fait, nous, on ne parle pas de fou, hein, par exemple, hein.
Je
Voilà.
suppose.
On va parler de décompensation, n'est-ce pas?
D'accord.
C'est-à-dire que je vais prendre pour, comment dire, assise théorique, Bergeret. Un clinicien. Bergeret dit que dans notre vie, en fait, nous rencontrons des hauts et des bas, et en fait, nous les négocions en fonction, comment dire, de l'apport psychique que les gens nous apportent et en fonction de nous, notre trajectoire. Et en fait, et dans notre vie, en fait, s'il arrive des situations qui sont très particulières, n'est-ce pas, qui sont très durs, qu'on n'arrive plus à négocier et que notre esprit-cerveau bloque, là, nous sommes en décompensation.
D'accord.
En
Richard,
réalité.
c'est intéressant, Richard, hein?
Voilà. Et donc, du coup, avec un suivi, avec un traitement, on peut sortir de cette décompensation et revivre comme tout le monde. Mais toi, moi, Richard, tout le monde peut décompenser.
D'accord. Bon, en tout cas, merci pour cette précision, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de décompensation, en tout cas, il s'agit de déconfinement. Nous allons vers
Effectivement.
un déconfinement lundi. Donc, nous savons que le Premier ministre, son gouvernement sont en train de mettre en place donc un plan. Vous, en tant que psychologue, comment appréciez-vous cette sortie vers le déconfinement?
Alors, comment l'apprécier? Alors, comment l'apprécier? On va dire que c'est quelque chose de nouveau qu'on va revivre d'inédit, hein? N'est-ce pas? Et quand on parle de nouveauté, on parle de quelque chose que, enfin, voilà, enfin, on marche sur des œufs, n'est-ce pas? On ne sait pas, il n'y a pas d'expérience derrière, il n'y a pas de recul derrière, donc on ne fait pas que qu'appliquer, on n'applique plus. Là, on teste. en fait. Et tester, c'est prendre des risques. Et tester, c'est prendre le risque de ne pas réussir, surtout, n'est-ce pas? On peut réussir, mais on peut ne pas réussir. Et c'est ça, c'est dans ce cadre-là que ça amène maintenant, en fait, comment dire, des peurs, n'est-ce pas? Des craintes au niveau de la population, en fait. Des confinements, il faut que la vie continue.
Est-ce que vous avez des mises en garde ou des conseils pour qu'on puisse mieux aborder cette période?
Alors, c'est une période anxiogène, déjà. D'une, le confinement était très anxiogène, mais le déconfinement est beaucoup plus complexe que le confinement. Le confinement était plus simple parce qu'il s'agit de dire aux gens, restez chez vous, il y a une maladie dehors qui circule, vous risquez de l'avoir et vous risquez de mourir. Et même si vous ne mourrez pas, vous risquez de bien, voilà, en prendre cher, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'était facile de dire aux gens, restez chez vous. Voilà. Donc, là, il s'agit de réorganiser la vie en tenant compte du fait que le virus, il est là. On ne peut pas le soigner. Il n'y a pas de vaccin, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de place en réanimation, mais il faut que la vie continue. Il y a 2 mois, on nous disait, restez chez vous, il est là, il peut vous tuer. Et là, on nous dit, OK, sortez, il est là et il faut vivre avec lui. En réalité. Donc, là, en fait, le postulat est différent. Et dans ce cadre-là, c'est normal que ça entraîne des crispations, que ça entraîne des peurs, parce que bon, tout le monde a dû faire le constat qu'au début, tout le monde en avait marre, marre, marre du confinement, tout le monde râlait, mais là, les gens ne râlent plus. On râle moins. Parce que c'est devenu une routine, c'est devenu notre quotidien en quelques mois. En fait. Et donc, du coup, on nous ressort de cette routine-là et le paradigme change. Sortez. Voilà. Même si c'est encadré, d'accord, c'est un déconfinement avec des phases, une phase test qui va commencer lundi, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est en phase test, enfin, on va commencer doucement. Donc, moi, pour revenir à ta question, comment dire les conseils que je pourrais donner aux gens, c'est de dire bon, on déconfine partiellement, mais faites comme si on vous avait dit confinez-vous, gardez les gestes, n'est-ce pas, barrières qu'on préconisait avant, que vous soyez une personne à risque ou pas. En fait, parce que par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé la conférence de presse du gouvernement, mais il parlait de responsabiliser les gens qui sont des personnes à risque, en fait. Mais il s'agit de responsabiliser tout le monde en réalité. Voilà, c'est un cap, il faut le faire, n'est-ce pas? Mais en ne se relâchant pas, en fait. Il faut garder les gestes barrières.
D'accord. Et je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec la psychologue Teva Gomis. Donc, et là, vous êtes aussi d'origine sénégalaise, après avoir parlé du déconfinement. J'aimerais bien que vous nous analysiez l'évolution de la maladie au Sénégal. Parce que moi, j'estime que le Sénégal, c'est tout simplement le terreau où le virus est très content. Parce que c'est un pays de diamants santé. C'est un pays de Masla, c'est un pays de Nyonté, de Safonté, de tout. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le virus n'est pas en terrain conquis?
Je réponds par l'affirmative, Lamine. Pourquoi? Parce que je vais un peu refaire une rétrospection là. Au mois de mars, je me rappelle au Sénégal, quand ils ont eu leur premier cas. N'est-ce pas? Oui, nous n'avons pas encore de mort, nous on gère, n'est-ce pas? Avec toute la légende qui accompagne cette maladie au début, comme quoi ça n'affectait pas, comment dire, les personnes d'origine africaine, comme quoi la maladie ne prospérait pas dans les pays où les températures sont élevées. Tout ça, c'était des mythes en réalité. n'est-ce pas? Au début, c'était ben, nous craignons quand on a entendu qu'il y avait des cas en Afrique, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on a vu ici, n'est-ce pas? Enfin, on se disait que si ça se déploie en Afrique, ce serait catastrophique en
Tout à fait.
réalité. Mais bon, moi, j'ai vu qu'au début, enfin, les Sénégalais croyaient que le coronavirus ne prospérerait pas dans ce pays-là. Et par exemple, bon, je sais que compte tenu de la situation du pays, ils ne peuvent pas se permettre peut-être de faire comme nous en confinant tout le monde, n'est-ce pas? Mais tout ce que je vois, c'est que, par exemple, les gestes barrières ne sont pas respectés. C'est-à-dire, on voit des gens qui sont dehors pour ne rien faire dehors, par exemple. On voit des gens qui sont dehors, qui jouent. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils sortent? Quand on demande aux enfants de rester à la maison, c'était la première mesure que le gouvernement a prise. Pourquoi on trouve des enfants dehors? En fait, il s'agit de responsabilité. Et cette responsabilité-là, ce n'est pas une responsabilité qui incombe aux enfants, c'est une responsabilité qui incombe aux parents. N'est-ce pas? On a beau mettre des mesures, mais il faut que le peuple adhère à ces mesures. Il faut que le peuple joue le jeu. Ici en France, on a eu un peu de difficultés, mais globalement, on a joué le jeu. Les gens sont restés chez eux. Au début, c'était difficile de mettre la machine en marche, mais finalement, on a réussi, n'est-ce pas? Et au Sénégal, voilà, moi, on ne sort pas. Enfin, les gens sortent pour aller. Je ne sais pas. Enfin, ils ont peut-être pas. Enfin, compris l'enjeu, n'est-ce pas? Et plus on avance, plus on a des morts, plus on a des cas. En réalité, cela veut dire que ben, les gestes barrières ne sont pas respectés. Cela veut dire que voilà, le virus, il a tendance à avancer lentement, mais très sûrement en réalité. Donc, il faudrait que, je pense qu'il va falloir qu'ils se ressaisissent un peu, en fait, parce que personne n'a un réel recul sur ce virus. Il peut se manifester comme ça dans un continent et autrement dans un autre, en réalité.
Tout à fait.
Donc, du coup, il faut que les populations jouent le jeu. C'est ce que j'avais à dire pour le Sénégal. Après, tout l'aspect politique de la chose, ben, on a beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. Mais pour une fois, je décide de ne pas parler de l'aspect politique.
Restons sur l'aspect psychologique.
Restons sur l'aspect psychologique. Il faut que les populations jouent le jeu. Ça, c'est d'une. Il faut aussi que le gouvernement accompagne les populations, n'est-ce pas, à respecter les mesures barrières, en réalité. Donc, cela va dans les deux sens.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Teva Gomis, de ces analyses psychologiques. Ça nous fait plaisir de temps en temps de parler d'autres choses et c'est quelque chose qui est souvent méconnu des Africains, surtout des Sénégalais. Et donc, j'espère que de temps en temps, vous accepterez mon invitation pour nous parler de ces aspects.
Avec plaisir. J'avais juste quelque chose à
Allez-y.
rajouter. Je viens d'y penser concernant mon analyse pour la situation au Sénégal. Nous sommes une population, n'est-ce pas, très. On est trop dans le groupe. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Et je pense que c'est pour cela que l'aspect rester chez vous, comment dire, n'est pas bloque, en fait. Ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans nos mœurs en réalité. Ici, c'est plus facile parce que tu peux alléger quelqu'un. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je vais toquer dans la chambre de quelqu'un, il peut me recevoir au couloir. C'est pas, ça choque pas en fait. Donc, quand on parle du Sénégal, on parle du pays de l'hospitalité quand même, n'est-ce
Ouais.
pas? C'est pas pour rien qu'on nous appelle le pays de l'hospitalité. Enfin, le pays où à midi, si tu manges pas, c'est parce que tu ne veux pas manger. Le soir, tu manges pas, c'est parce que tu ne veux pas manger. Parce que dans n'importe quelle maison où tu entres, ben, tu vas manger. Ce sera comme chez toi. Ben, ces gens-là aussi, tu leur demandes du jour au lendemain comment dire, de changer de paradigme psychologiquement. ce n'est pas évident parce que ce n'est pas encore entré dans leur culture. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que les populations doivent jouer leur partition, mais aussi l'État doit les accompagner, doit les aider, en fait, dans ce changement de registre.
Il n'y a plus rien à ajouter. Merci beaucoup, Madame la psychologue.
Merci beaucoup, Lamine. Merci, Richard.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Maintenant, nous allons à Nantes retrouver Pape Sarr. Pape Sarr est un véritable révolutionnaire, je pense, parce que j'ai vu que tout le monde est pour le rapatriement des corps dans leur pays d'origine. Et on a reçu beaucoup de gens qui se battent pour cela. Et lui, il a dit qu'il est totalement d'accord avec la fermeture des frontières, notamment donc la décision du président de la République de ne pas accueillir les Sénégalais décédés de COVID-19 dans la diaspora. Mais d'abord, Pape Sarr, qui êtes-vous?
Pape Sarr est Sénégalais résident à Nantes depuis 30 ans. Je suis consultant formateur en informatique, développement durable et management stratégique. Pour l'instant, j'ai commencé à opérer un retour au Sénégal. Je suis formateur en France, mais depuis l'année 2020 là, qui s'écoule, je commence à donner des cours à l'université au Sénégal.
Voilà. D'accord. Donc, vous êtes professeur en quoi?
À HEC Almadi, je suis professeur en analyse et traitement de données.
D'accord. Voilà, donc, comme je l'ai dit dans cette émission, c'est une émission avec un esprit de Voltaire. Même moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais comme disait Voltaire, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour que vous ayez le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Donc, Pape Sarr, aujourd'hui, pourquoi êtes-vous d'accord avec le non-rapatriement des corps décédés de COVID-19? Et je veux des arguments précis et concis.
Merci. Merci beaucoup, Lamine. Je pense qu'il faut rétablir quand même la juste proportion des choses. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne puisse pas rapatrier les corps de nos victimes sur la terre de nos ancêtres, parce que c'est ça un peu le vœu de tous les Sénégalais de la diaspora. Je suis moi-même un vaillant acteur de cette diaspora-là, donc je ne peux pas être en porte-à-faux avec la volonté suprême des Sénégalais d'être enterrés chez eux quand ils meurent. Ce n'est pas propre aux Sénégalais d'ailleurs, c'est la plupart des Africains et la plupart des migrants, parce qu'en faisant ça, on essaie de corriger un peu une trajectoire familiale un peu bafouée avec la migration. Et en rapatriant les corps, c'est comme si on rétablissait un peu les gens dans leur famille. Quoi. Voilà. Et donc, ça, ce vœu pieux-là, je n'ai certainement pas envie d'être face à ça. Par contre, je veux qu'on rétablisse certaines choses. Nous vivons une situation de COVID-19 qui est une situation de pandémie, une situation de guerre chez certains, parce que c'est libellé comme ça, mais en tout état de cause, une situation anormale. Et dans une situation anormale, les morts et les situations difficiles ont tendance à faire perdre la raison aux gens, à telle enseigne qu'ils oublient ce que c'est que les règles, les lois, les processus. Et mon discours tient à rappeler ça parce que je suis Niamour et Mourid, donc je défends moi aussi le fait que nos morts doivent retourner sur la terre de leurs ancêtres. Mais voilà, en face de cette histoire-là, il y a des problèmes. Et on ne peut pas faire comme si c'était la volonté d'une personne, Macky Sall en l'occurrence, de fermer la frontière du Sénégal et de décider que la diaspora est indésirable et que les morts dans la diaspora, surtout ceux morts de COVID-19, ne sont pas désirés au Sénégal. C'est faux.
L'OMS ne l'a pas interdit.
Non, l'OMS n'interdit rien. L'OMS est là pour tout le monde. L'OMS ne fait que des recommandations. L'OMS dit, en fonction de à l'état actuel de la connaissance, dans un premier temps, faites attention à ne pas trop toucher les morts de COVID-19 parce qu'on ne sait pas trop. Après, l'OMS dit, finalement, peut-être qu'en prenant des protections avec les EPI, on pourrait peut-être manipuler ces morts-là. Et puis à la fin, l'OMS dit, écoutez, que chaque comité dans chaque pays prenne ses dispositions et voit, en l'état actuel des connaissances, quelle est la meilleure façon de faire. Donc, on ne peut pas dire que l'OMS a interdit ou autorisé. L'OMS fait des recommandations au jour le jour, c'est très quotidien actuellement avec le COVID-19 parce qu'on n'en sait rien. Nous, tout le monde est dans la course pour en savoir plus sur cette fichue maladie qui nous empêche de vivre normalement. Vous et moi ne vivons pas normalement depuis un bon moment. Tout le monde s'en est rendu compte. Et nous n'avons pas vécu, nous, l'âge de la peste pour pouvoir comparer. Ce que nous savons, c'est que depuis que nous sommes nés, cette situation est inédite et n'est jamais arrivée. Alors, à une situation inédite, il peut y avoir des mesures aussi inédites. Et quand l'OMS dit « méfiez-vous », il appartient à chaque pays de prendre ses responsabilités. La France, puisque nous sommes en France, c'est ce que je connais le mieux, la France a pris ses responsabilités à travers le Haut Conseil des services publics de santé. Puisque eux, ils éditent des recommandations aussi en fonction des conseils de l'OMS. Et l'État prend des mesures. Je dois vous dire que le 28 février, un décret a été pris pour dire ne touchez pas aux décédés de COVID-19. Il faut qu'ils soient mis en bière de manière automatique. D'abord dans un sac imperméable et ensuite dans un cercueil métallique fermé.
Et que justement, en faisant tout ça, on peut tout simplement ramener les corps chez eux. Pourquoi vous dites, avec toutes ces précautions, on ne peut pas amener ces corps?
Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas. J'essaie d'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est difficile.
Allez-y.
Quand on met des corps dans un cercueil hermétique fermé, c'est pour éviter la contagiosité. D'accord? C'est pour dire que ce corps ne peut plus contaminer. Parce qu'on a pris des mesures. D'abord, un sac imperméable, ensuite, un cercueil métallique fermé. Donc, en théorie, ce corps-là, tant qu'on n'ouvre pas le cercueil métallique, ne peut contaminer personne.
Donc, il y a un problème.
Le problème, il est que nous sommes des Sénégalais. Mais il y a deux problèmes. Je vais y arriver. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord que les lois ne nous permettent pas. Je vous ai envoyé des documents pour vous rappeler ce que dit la loi en France quand on veut rapatrier un corps en Afrique. La première chose, c'est qu'il faut que le médecin vous fasse un certificat de non-contagion. Ça veut dire qu'il décide que le corps qui est décédé là n'est pas mort d'une maladie transmissible. Donc, ce n'est pas possible. Pour cette petite impossibilité-là, l'Algérie, le Maroc même, parce que l'Algérie avait commencé, ils se sont arrêtés. Le Maroc a commencé les premiers jours, ils se sont arrêtés.
Non, L'Algérie est la seule qui accepte. Les autres ont arrêté, mais pas l'Algérie.
Non, l'Algérie a arrêté. Vas-y, tape Google pendant que je parle. Tu verras ce que je dis. Il faut, bon. Les gens se ravisent, les gens se mettent à jour au quotidien. Au quotidien. Le seul pays aujourd'hui qui continue de rapatrier, c'est la Turquie. La Turquie est le seul pays à ce jour qui continue de rapatrier des corps. Mais je dois rappeler que la Turquie le fait avec ses propres cargos et qu'il ne se soucie pas de certificats de non-contagion et de non-épidémie. Ils sont des documents requis pour le rapatriement des corps. Or, on ne peut pas les avoir. En France, c'est l'agence régionale de santé qui délivre le certificat de non-épidémie qui a décidé qu'il ne le délivre plus pour des gens qui sont décédés de COVID-19. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce papier. Le deuxième papier délivré par les médecins, c'est le certificat de non-contagion. La France dit on ne peut pas donner un certificat de non-contagion pour un mort de COVID-19. Donc, exit ces deux documents, vous ne pouvez pas les avoir. Il y a un troisième document. Le Sénégal fait partie de ces pays qui demandent qu'il y ait un soin de conservation du corps sur les dépouilles qui rentrent au Sénégal. Parce qu'il y a un long chemin à faire et des fois, on ne sait pas si le mort en question, au bout d'une semaine, où il est dans son cercueil, est-ce qu'on doit en plus traverser tout le Sénégal pour aller l'enterrer à Congolais. Donc le Sénégal dit il faut des soins de conservation du corps. Ça s'appelle de la thanatopraxie. Notre pays, la France, notre pays de résidence, notre pays d'accueil nous dit qu'en période de COVID-19, il est interdit. Le décret du 28 février a interdit. Après le 24 mars, ils ont levé cette mesure d'interdiction pour l'assouplir et dire que finalement, quand les gens sont protégés, ils pourront. Depuis qu'il y a eu un mort en Thaïlande et que cette mort-là a été attribuée au fait du COVID-19, de défunt de COVID-19, parce que c'est un médecin légiste thaïlandais qui est mort de COVID-19 après avoir touché des morts de COVID-19, La France a encore fait un décret le 1er avril pour l'interdire à nous. Donc vous voyez, c'est une histoire de règlement et de loi. Pape Sarr ne vante rien. Mon rôle est de dire aux Sénégalais de la diaspora avec qui je me bats, avec qui j'ai les mêmes intérêts, avec qui j'ai les mêmes vouloirs. Moi aussi, j'aimerais, si je meurs demain, qu'on m'enterre sur la terre de mes ancêtres. Tu comprends? Et nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons les mêmes probabilités de mourir de cette pandémie. Personne ne sait qui va y échapper. Pape Sarr, voulant être enterré à Louga, ne peut pas dire aujourd'hui, je suis d'accord avec le fait que les morts ne puissent pas aller. Non, je dis, prions et continuons d'espérer que très vite, on aura une solution pour que les corps ne puissent plus contaminer. Et comme ça, tout le monde va pouvoir enterrer ses proches là où il faut. Voilà mon discours.
Merci beaucoup.
Le discours des autres, la plupart des discours que vous entendez, c'est des discours de politiciens encagoulés qui ne savent pas, dans une période de Covid-19, comment ils vont combattre l'État. Et tout le monde va s'habiller de cette histoire de rapatriement de corps pour faire du bruit. C'est pas juste. On utilise l'émotion et la mort des gens pour leur raconter tout et n'importe quoi. En toute occasion, il faut dire la vérité. Voilà ma posture.
Merci beaucoup, Pape Sarr. Mais en tout cas, comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons des médecins, nous recevons des politiciens peut-être encagoulés, mais aussi des politiciens qui ne sont pas du tout encagoulés. C'est une émission qui est faite pour tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vous ai donné la parole pour nous apporter des éclairages. Et voilà, maintenant, libre à chacun d'aller faire ses recherches et de prendre position. En tout cas, merci, Pape, d'avoir participé.
Merci, Lamine. Merci, Lamine. Merci pour l'équidistance. Merci. Au revoir. Au revoir, Richard. Merci beaucoup. Au plaisir.
Au revoir. Savere kan bi mo jugati way ko anala bindad fi way fi sunu sangi bi kon ne may xamna ni sax du way kula moy way ko anala ndax bat bu neex bi ya ma ko may kon ne may abillahi woron na ma man way way ko anala aba way la man li ma beug way kon ne may ndax er yu neex yi gaay di way way ko ñenen ñi yow lañ ko wara way ku fi way kenen ku dul ki ma way xamal ni way wanil na ci jey ku way kenen ku dul ki ma way ko man ti way de ki ya ko may di ñaani jeen amna lu ko gën afi xela xam nañ ni na bi jeen di ñaani jeen amna lu ko gën kat afa khela xamna ñi nappi jeen kon ne bay wa nga am sa jeen ma am sama jeen man ni nga am sa jeen ma am sama jeen man ku nekk ku fagu ni sa wu jeen jeen kon ne bay wa ku jaay ku nekk ñaan nga jaral lambun te ñun yaanu jaral.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Voilà, donc Richard, maintenant nous allons aller à Toulon pour récupérer notre chroniqueur Medoun Diène. Voilà, Medoun, qu'est-ce qui se passe au pays actuellement? Quel est l'état des lieux sur la situation du Covid-19? Que peux-tu nous dire sur ça?
Écoute, man, moi, je pense que honnêtement, avec tout le mérite, comme on l'a déjà dit, hein, on a eu à féliciter les médecins par rapport à leur travail. On a eu à dire tout ce bienfait, justement, que ces médecins, ces personnels soignants sont en train de déployer pour se mettre au diapason. On a parlé des infections qui continuent de plus belle parce qu'ils ne sont pas protégés. Mais je pense qu'il y a un pilotage à vue. Il y a une pilotage administrative à vue de cette pandémie qui fait qu'aujourd'hui, on te dit que les asthmatiques, on va les parquer dans l'aérogare de l'aéroport de Yoff, on ne va plus les hospitaliser. Mais honnêtement, je pense qu'il y a une mafia du coronavirus qui est en train de se mettre en place. Parce que quand je vois, j'ai honte de le dire, j'ai même honte d'avoir vu ça, que ce comité de gestion qui est composé de cadres éminemment des gens de la haute société, c'est-à-dire des ministres d'État, c'est-à-dire des maires, des présidents de maires, des députés, sont indemnisés à raison de 3,5 millions par personne. Honnêtement, je me dis, mais cet argent, c'est 300 millions. Est-ce que cet argent ne devait pas aller encore enrichir le panier de la ménagère? Et je me dis qu'on a un véritable souci. Oui.
Peut-être on a un président capitaliste, tout travail mérite salaire.
Non, on a un président qui est incapable de grandeur. On a un président qui ne peut pas faire de la politique. Aujourd'hui, je te dis, même la gestion de l'argent de la diaspora, il y a du tâtonnisme, du tâtonnement. Il y a du pilotage à vue. Aujourd'hui, ils ont changé les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, ils incluent les retraités et les commerçants. Ce qui n'était pas dans l'optique de départ, dans la base de données de départ. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire de la politique comme ils savent le faire et comme ils le feront jusqu'à la fin de leur jour. Peu importe. Moi, je pense que s'il ne s'agissait que de le coronavirus durerait des années et des années. Parce que ça va leur permettre de s'en mettre plein les poches, ça va leur permettre de continuer à gouverner en tout manque de démocratie.
Ben, la première tranche, c'était 1 milliard et il n'y avait pas toutes ces personnes que tu viens de citer. Maintenant, il y a une deuxième tranche donc, de 700 millions de francs CFA. Donc, à ce rythme, peut-être, ce ne sera plus 12 milliards, ce sera peut-être 100 milliards. Est-ce que le Sénégal a les moyens de s'occuper de sa diaspora avec de telles sommes?
Mais Lamine, il est où le sérieux? Le sérieux, c'est que quand tu fais des annonces, il faut que ces annonces soient suivies d'effets. Quand tu dis j'ai un budget de 12,5 milliards pour la diaspora, c'est 12,5 milliards, ce n'est pas 12,01 milliards. Sinon, ça devient du pilotage à vue, ça devient de l'amateurisme. Et justement, on s'en serait passé volontiers de cette somme. On s'en serait passé par d'autres mécanismes qui permettaient de subventionner les aliments, peut-être. Il y a des écoles qui s'opposent. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on avait subventionné les denrées de première nécessité, tout Sénégalais serait en capacité de s'acheter son riz. Celui qui s'achetait ses deux sacs serait en capacité de s'acheter cinq sacs et de pouvoir donner à d'autres deux sacs de riz. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça que le système de solidarité fonctionne. Mais on ne décrète pas des choses. Il y a des choses qui ne se décrètent pas. On ne peut pas du jour au lendemain entrer les gens dans des contextes les plus farfelus les uns et les autres, enrichir pendant ce temps. Il y en a qui se sont enrichis sur le commerce, d'autres sur l'huile, d'autres sur le transport. Aujourd'hui, on parle de perdièmes de 3,5 millions pour le comité de gestion, alors qu'ils ont tous des voitures de fonction. Ils ont tous le carburant, ils ont tous l'essence, ils ont tous leurs indemnités de hauts conseillers, d'ambassadeurs, de conseillers économiques, sociaux, environnementaux, d'ambassadeurs itinérants, de militaires. Mais on va où là? Il va falloir qu'on se calme à un moment.
Et puis je rappelle que quand même une bonne partie de cet argent vient du peuple. C'est le peuple qui a cotisé, qui a mis son argent et les gens qui sont déjà payés par l'argent du contribuable aussi veulent récupérer cet argent. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, la question que je me pose, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'indignent sur ça. Le président de la République a parlé d'unité nationale. Mais est-ce que cette unité nationale veut dire aussi mutisme national? Ils sont où les Khalifa Sall? Ils sont où les Ousmane Sonko? Ils sont où les, je ne sais pas moi, Karim Wade, même depuis son Qatar? Ils sont où les autres? Les politiques, maintenant, ils sont devenus à fond.
Lamine, je vais te dire une chose. L'erreur fondamentale que ces politiques ont commis, c'est d'avoir répondu à l'appel du président de la République. La preuve, il est tellement politicien qu'au départ, il dit les forces vives de la nation, c'est-à-dire de la démocratie, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, je les reçois. Après, qu'il n'a pas reçu les chiens, les chats, les souris, les rats, il les a décrédibilisés, il les a rendus ridicules. Il n'aurait jamais dû accepter cet état de fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de parler. Parce que quand ils ont sorti, tout un chacun s'est permis. L'autre nous a dit que l'eau qui éteint l'incendie, peu importe la pureté, il n'y a pas... Non, mais c'est ça le problème. C'est ça.
Ouais, mais c'est chacun ça voulait... le fondamental. Chacun voulait bien faire, donc dans cette sorte d'unité nationale, et je les comprends quand même, il y avait le coronavirus, ça tue de partout, on doit tous être la main dans la main. Mais est-ce que la main dans la main exclut le fait quand même de contrôler, le fait quand même de parler d'injustice ou bien de faire, en tout cas,
au moins comme ton... Oui. À mon sens, non. À mon avis, non. Maintenant, pourquoi ils se sont tus? Il n'y a que eux qui ont les tenants et les aboutissants. Mais pour moi, ils sont aujourd'hui comptables de fait d'avoir répondu à l'appel de Macky Sall. Ils auraient lui dire, vous êtes le président de la République, on vient, vous venez de vous faire élire par la force, à vous de gérer la situation. Et eux, d'aller parler avec les militants. Mais même ça, je ne les vois pas. Ils sont promptes, tous, man, en campagne électorale, à acheter des t-shirts, à faire des flyers à leur effigie. Aujourd'hui, j'en ai pas vu. Rares sont ceux que je vois qui sont sur le terrain et qui sont auprès de la population et qui font du social. Ça, j'en ai pas vu. J'en ai vu personne, aucun. Ou peut-être qu'ils le font, dans le plus grand mutisme. Et s'ils le font, tant mieux. Et j'ose espérer qu'ils le font. Parce que sinon, demain, ils rendent compte au peuple.
En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça pose question de ne pas voir Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, les Karim Ouad, tout ça, les maires Aïdom Boj, on ne voit personne.
Seul bémol, c'est que Khalifa, jusqu'à présent, il n'a pas parlé. Donc peut-être qu'il est dans ce dynamique qu'il devait parler et que le coronavirus est venu. Mais moi, je pense qu'il y en a honnêtement qui devaient aujourd'hui parler. Je ne veux pas stigmatiser. Et même Khalifa, peut-être que c'était l'occasion de reprendre la parole. Parce que la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, le président, un homme froid, glacial, calculateur, est en train de dérouler. Et je peux t'assurer qu'il a il est sous les chapeaux de roue, comme on le dit. Peu importe, voilà. Mais ça va, quoi. Ça va. Mais l'après-corona existera.
Bon, mais en tout cas, merci et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Allez,
au revoir.
Merci. Au revoir.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, donc après Paris, après Toulon, après je ne sais plus où, nous allons nous rendre au Sénégal, aller voir notre envoyé spécial Elhaj Moussa Kouaté Guy Moïse au Sénégal. Elhaj Moussa, vous êtes toujours confiné au Sénégal. Y a-t-il un espoir pour rentrer de sitôt en France?
Non, je ne le pense pas. Tout d'abord, je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Galère. Et je salue Richard et toi-même, Lamine, pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Malgré le confinement, vous êtes en contact avec les gens qui sont restés chez eux. Et pour cela, je vous dis bravo. Merci. Ici au Sénégal, la situation, on n'est pas confiné. Mais techniquement, l'État a réussi à confiner les gens d'une façon technique. C'est-à-dire que les marchés, il y a des jours où il y a ceux qui vendent les aliments, les nourritures qui ouvrent, tu vois, et pendant deux jours, c'est les autres qui ouvrent. Donc, ça permet de neutraliser et de canaliser un petit peu les marchés. C'est-à-dire, il y a des jours ouvrables où ce sont ceux qui vendent la nourriture qui ouvrent. Il y a d'autres jours et ceux qui vendent d'autres marchandises. Donc, ça évite un attroupement. Et il y a aussi un confinement. Beaucoup de gens sont dans les régions, ne peuvent plus se déplacer. Donc, le déplacement interrégional est interdit. Donc, c'est une autre façon de confiner les gens. C'est une autre technique. Mais on est presque confiné. Maintenant, bon, il faut aussi comprendre que dans ce pays, par manque de civisme et de discipline, C'est trop dur de gérer la situation au Sénégal.
Donc, je vois que les morts augmentent. Hein, donc, il y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus de cas communautaires. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va s'accentuer.
Oui, il y a 13 morts. Malheureusement, moi, hier, j'ai un jeune de mon quartier de Rebus qui est décédé. Et je présente mes condoléances à Émile Assoumpi, le Béninois, Sénégalo-Béninois. C'est une famille béninoise qui a habité dans ce quartier de 70 ans. Et c'est un des enfants de cette maison qui est parti à l'âge de 37 ans. Et ça a endeuillé tout le quartier. Et je vous dis que, bon, en ce moment, aujourd'hui, il y a un 13e mort. Mais, Lamine, pourquoi nous plaindre quand on voit qu'il y a des milliers et des milliers de morts dans des pays aussi développés que les États-Unis, la France, l'Espagne et l'Italie. Donc, pour le moment, on est à 13 morts. C'est pas un scandale. Il faut que ce ralentissement, que les choses ne progressent pas. Mais les cas communautaires, c'est vrai, il y en a. Beaucoup de gens sont contaminés. Mais au niveau de la comptabilité macabre, 13, et si va, pour le moment, c'est pas grave.
Voilà, mais...
Mais bon, l'ami, je peux pas ne pas aussi dire qu'aujourd'hui, le collectif des Sénégalais de l'extérieur pour le rapatriement des Sénégalais qui sont victimes ont porté plainte contre l'État du Sénégal. Et ce matin, ils sont allés au tribunal déposer une plainte contre l'État du Sénégal pour permettre aux Sénégalais qui sont morts du coronavirus de pouvoir être enterrés au pays. Nous autres Sénégalais de la diaspora qui sommes bloqués ici, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'interlocuteur. Tu l'avais dit la dernière fois, Bakar Ba, il était un des nôtres. Moïse Sarr, il est un Parisien. Tous ce sont des Sénégalais de l'extérieur. Ils ont disparu des radars et je ne comprends pas comment peut-on ignorer des milliers et des milliers de Sénégalais qui sont là et comme tu l'as si bien dit, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, certaines veulent bien venir par Air France, mais ils n'ont pas les moyens de payer un billet d'avion à 1 million CFA. C'est horrible, c'est terrible. Et je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. L'État du Sénégal, avant d'aller aider les immigrés là-bas, la diaspora, il y a des milliers de gens qui sont sur place. Ils ne peuvent pas s'en occuper. Et pour aller foutre la zizanie dans la diaspora, soi-disant, on va distribuer de l'argent là où les gens n'en ont même pas besoin. C'est ça le vrai problème.
Tout à fait. Et là, je vous ai vu dans une de vos vidéos. Il va falloir que vous fassiez attention. Il n'y a pas de distanciation sociale. Je vous ai vu à Air France. D'abord, on vous a mis dans l'arrière-boutique. Je ne sais pas pourquoi on ne vous met pas à Albert Sarro. Pourquoi on ne vous met pas là-bas. Mais vous, les Africains noirs, là, vous êtes derrière. D'ailleurs, Albert Sarro, ça m'énerve parce qu'Albert Sarro, c'était quand même le ministre des colonies. Au lieu d'appeler cette avenue Baba Diakhouba ou bien avenue Krouma, on reste sur Albert Sarro qui est ministre des colonies. Et vous, les Africains sénégalais, je vous ai vu presque dans un hangar agglutiné pour chercher des billets d'avion. Mais c'est quoi cette histoire-là?
C'est quoi cette histoire? C'est que les gens que tu vois là-bas, la mine, qui sont venus, ils sont en détresse. Ce sont des gens, aujourd'hui, beaucoup parmi eux ont laissé leurs enfants, ont laissé leur famille, et ça commence à bien faire depuis des mois, ils sont là. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a le poids de la famille locale, il y a le Ramadan, les gens qui attendent de toi de l'aide. Et tu t'imagines le Modou qui est à Touba, qui ne peut même pas venir à Dakar. Tu ne peux même pas venir à Dakar. Même si aujourd'hui, tu voulais venir en France, tu ne pourras pas parce que c'est fermé. Et ce monsieur qui est là, avec beaucoup d'enfants, qui nourrit presque 30 personnes et qui se trouve du jour au lendemain sans revenu. Tu t'imagines, il y a un drame. Et aujourd'hui, la distanciation que tu dis, Lamine, il faut aussi que tu saches qu'on ne s'est pas respecté dans ce pays. Les gens, tu les vois dans les garages prendre les Tata, les Ndiaganyaï pour rentrer chez eux, c'est la bousculade. Même pour acheter du pain, il n'y a pas la distanciation. Donc, il y a un danger. Prions pour que cette pandémie n'arrive pas en force chez nous, parce que si c'est le cas, ça va faire des ravages. Et je prie le bon Dieu pour qu'il nous aide à nous épargner l'Afrique de cette pandémie qui a fait du mal en Occident. Merci. Et chers amis de Marseille, je vous dis bon mois de Ramadan, Ramadan Moubarak, et je salue l'imam Ahmed Djigen et l'imam Lassana Djabi. Il me manque beaucoup et les prières nous manquent beaucoup dans ce pays. Et c'est le prochain problème au Sénégal. Les musulmans sont en train de faire la pression pour qu'on ouvre les mosquées, Lamine. Ça, c'est un débat qu'on va traiter dimanche prochain.
La prochaine fois. Allez, ça va grave. Merci beaucoup.
Allez, bonne image. Allez, ciao, merci. Ciao. Et Lamine,
surtout,
samedi, ce sera le 40e jour de notre grand frère Pape Diouf.
Ah, d'accord. C'est bien de la rappeler.
Samedi, je demande à tous les Sénégalais, tous les musulmans, de faire des prières pour notre grand frère, notre ami Pape Diouf, qui nous a quittés le 31 mars. Et samedi, ce sera son 40e jour. Une pensée pour Pape Diouf. Faites des prières pour lui. Que la terre lui soit légère. C'est mon dernier mot et à tous. Portez-vous bien. Que le bon Dieu veille sur vous.
Merci beaucoup. De toute façon, je vous le dis, la première émission après le déconfinement sera entièrement consacrée aux hommages à Pape Diouf. Allez, au revoir.
Allez, au revoir. Merci. Richard, salut. Portez-vous bien, chers amis. Vous manquez beaucoup, hein?
Ciao.
Ciao.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Voilà Richard, donc nous continuons le tour du monde après Paris, après Toulon, après le Sénégal. Maintenant, il faut aller chercher notre Matarli international, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket qui est du côté des États-Unis. Non, du côté du Canada. Matar, bonjour.
Lamine, comment ça va?
Ça va tranquille?
Oui, on est toujours en confinement, mon ami.
Bon, ben ça va, je vois que quand même, il y a pas mal de décès dans ce coin-là, non?
Oui, au Québec, il y a 1500 et quelques points.
Eh bien, ben écoutez, en tout cas, faites attention, prenez soin de vous. Hein. Voilà. Matar, aujourd'hui, Tilanga Bogawa, sur quoi tu veux parler concernant l'actualité?
Ok, Lamine, en premier. Je vais revenir sur ton émission de la semaine passée parce que je n'ai pas pu intervenir là. Mais je voulais parler par rapport à la sortie des journalistes là. Ils ont parlé des modou du n'importe quoi. Mais là, j'ai vu la vidéo, j'étais hallucinant. Incroyable. Les gens là, ils racontent du n'importe quoi. C'est comme s'ils n'ont jamais voyagé. Du n'importe quoi, mais c'est terrible. Man, quand j'étais aux États-Unis, j'avais mon business de transfert d'argent. Ce que les Moudou apportent au Sénégal, je dis de façon journalière, jour par jour, c'est hallucinant. Je ne peux même pas te dire le nom. Ils travaillent matin, midi, soir. Mais comment se fait-il que le gars-là, il dit qu'il y a une place? Mais man, ça m'a fait rigoler, quoi, que ni les ni les ni les bichards.
Mais
mais le truc, ce qui se passe à la réalité et ce que les modou, l'Union au Sénégal, là, non, tu ne peux pas imaginer.
3,6 milliards par jour. 3,6 milliards par jour.
Lamine, je ne peux pas te dire combien d'argent est passé par mois même pour aller au Sénégal, au nom d'Allah. Parce que moi, je faisais ça. Donc, je voyais ce que les modou, l'Union liguée pendant 2 semaines. Parce que si en Amérique du Nord, on n'est pas payé par le mois, on est payé par semaine ou par 2 semaines. Chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, tu as ton chèque. Mais l'argent, comment on va vivre au Sénégal? Mais Lamine, il faut nous remercier. Parce que ce qu'on fait, c'est extraordinaire. Pendant le mois de Ramadan, tout ce qu'on a, nous, on va envoyer au pays, on va aider les pauvres, on va aider les gens qui n'ont rien quand même. Faut pas déconner là. Faut pas déconner. Mais bon, je ferme la parenthèse sur ça. C'était juste pour me rapprocher de ton émission de la semaine passée. Anyway.
OK.
Deuxième, là, Lamine, j'ai peur de notre pays, franchement.
Ah.
Et les morts s'accumulent, les cas s'accumulent. Mais où est-ce qu'on va? Nous, dans les pays développés comme la France, nous, ce qu'on vit ici au Canada, on a tous les moyens du monde et actuellement, il ne faut pas maîtriser la situation. Si je pense à notre pays, on n'a rien. Si on ne parvient pas à maîtriser la situation, où est-ce qu'on ira? Point d'interrogation, c'est ça ma question aujourd'hui.
Ben écoute, on va rester positif. On va rester positif, voilà. Dignan yalla rek mu baña sori sori nonou, voilà, parce que 13 morts, 14, 15, bon, voilà, on l'espère pas, voilà, mais j'espère que tout simplement, à un moment donné, que ça va s'arrêter.
J'espère bien, l'ami. J'ai pas grand chose à dire, mais j'attends mes 38 euros. Hein.
Voilà.
Non, non, non. Je suis, l'ami, il faut le dire que je suis, comment dirais-je, je dois faire partie du programme. Je viens juste d'avoir un bébé. Les 38 dollars là, pour acheter
un écoute, tu aurais dû être resté étudiant parce que je viens d'avoir le directeur des bourses, donc qui donne lui entre 500, 200, tout ça. Donc, hein, voilà. Mais maintenant, tu n'es plus étudiant. Hein, voilà, dommage pour toi.
Mais Lamine, c'est terrible, hein, les gens là, comment ils partagent l'argent là. Non, mais c'est extraordinaire.
Et ça parce s'appelle que... du Corona Pacho.
Pacho, exactement. Mais regarde, ici au Canada, je t'avais envoyé, comment dirais-je, le truc, la pétition là. Nous, on ne voulait pas que l'argent rentre ici, que ça reste au pays et aider les gens là-bas. Mais je ne sais pas. Ici, j'ai vu les étudiants 200 dollars, Corona, 1000 dollars. Mais puis, Hamgola, il y a eu un peu de temps, il y a eu un Corona. Ah oui, mais il y a eu le 500 avant.
Mais non, quand même, il faut quand même, je pense, des attestations. Bon.
Lamine, c'est juste pour te dire le principe. Si les gens ne sont pas malades, l'argent va être mangé par les gens qui vont les distribuer. Vrai ou faux?
Tout à fait.
Merci.
Ok, ouais.
Donc, je vous souhaite une bonne journée, Richard. Bonne fin de semaine. Hein.
Ciao, ciao.
Allez,
ciao.
Lamine, à tantôt.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Donc, Richard, maintenant, on va revenir dans le sud de la France. Aller directement à Aix-en-Provence pour retrouver notre grand frère et chef d'entreprise, M. Bira Thioun. Bira, comment va?
Je vais très bien, Lamine. Je vais très bien, alhamdulillah.
Alors, quoi de neuf par rapport à l'actualité du Sénégal?
Ben, écoutez, par rapport à l'actualité du Sénégal, je vais d'abord commencer à remercier notre ami Richard par son éthique et son savoir-faire. Et j'encourage aussi notre frère Lamine de par sa persévérance et sa ténacité envers l'éthique et surtout son implication justement dans le système sénégalo-gaulois, je dirais. Hein. Bon.
C'est gentil.
Ça, c'est mes termes. Hein. Donc, Lamine, si on arrête de se distraire, il faut quand même, à un moment donné, se motiver et faire face à tout ce qui est problématique au niveau du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il se passe des choses que tout le monde pointe du doigt et personne ne va en parler. Je veux dire par là, si on regarde le Sénégal, ce qui nous protège, c'est quoi? C'est les paramilitaires, c'est les militaires, c'est la police, la gendarmerie, on est d'accord? Si aujourd'hui, ces corps de métier-là ne s'entendent plus et aller à se taper dessus, là, mais il y a quelque chose qui ne va pas et personne n'en a parlé.
De quelle comme histoire si tu parles là? Lokhéo, qu'est-ce qui se passe?
Mais au Sénégal, il y a eu des gendarmes qui ont attrapé un policier. Ils l'ont tabassé tout simplement parce qu'il n'était pas dans la bonne zone quoi, de contrôle.
Non, sérieux? Voilà. Il n'était pas en tenue, j'espère.
Ben si, il était en tenue.
Ah, ils l'ont quand même fracassé.
Ben oui, voilà, donc c'est quelque chose de c'était du jamais vu, quoi, pour un peuple, pour un pays, quoi. Voilà, donc on va où? C'est ça ma question. Bon, ça c'est un premier point, c'est une parenthèse. J'espère que le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées, ils vont se rencontrer pour mettre le haut là, il faut dire.
Ah et oui, c'est puis, sûr. Hein.
De l'autre côté, il faut revaloriser justement le salaire de ces braves gens-là. Donc moi, je pense que c'est un problème de comment dire de majal comme ils disent eux quoi, voilà un point focal où ça brasse beaucoup d'argent, mais donc ça nous dénonce à aller vers le gouvernement pour qu'il rééquilibre un peu le salaire de ces braves gens là vraiment. Bon, de notre côté, notre président a été très bien conseillé parce que si j'entends qu'il nous envoie 12 milliards de francs d'euros, ou je ne sais pas, de
12 CFA. 12 milliards de francs CFA.
De francs CFA pour l'amener en Europe. je veux dire, le monde marche à l'envers, quoi. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas, ce n'est pas que je suis couvert, je suis comme tout le monde, je me lève comme tout le monde, je me bats comme tout le monde. Et si on voit la configuration et la façon dont ils nous ont envoyé ces sous-là, ça va créer ce qu'on appelle la division. Voilà. Tout simplement parce que tout un Sénégalais qui entend que le président ou l'État du Sénégal a envoyé de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dresser pour dire quelle est où notre part. Et malheureusement, c'est pour le COVID-19. Donc, il y a des qualificatifs bien précis pour pouvoir obtenir cette aide-là. Mais est-ce que ça va se passer comme il se doit? Voilà, ça, c'est ma question. Bon, sinon...
J'espère que tout simplement que les gens qui sont en charge de cet argent vous répondront.
Bon, j'espère. Bon, après, le reste, on verra la suite des choses. Franchement, il y a tellement de choses à dire. Et si on dit tout, on va nous pointer du doigt pour dire que la problématique vient de nous. Alors moi, aujourd'hui, Lamine, ce que je demande aux Sénégalais, qu'ils arrêtent de dire que le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Il faut qu'ils essaient de prendre le doigt qu'ils pointent vers les Sénégalais, qu'ils se le pointent vers eux-mêmes. Si chacun se repointe le doigt sur soi-même, là, on verra où est le problème. Et là, je pense qu'on pourra marcher droit avec l'éthique, considération et respect. Voilà.
Merci beaucoup, Biratioun. Merci pour ton intervention. Et puis, on se dit tout simplement samedi prochain.
Merci.
Merci beaucoup, Gra.
Ciao.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Richard, un peu de dédicace à nos fidèles auditeurs. Donc, grand Gibissima depuis le Sénégal, à Lune Djigali, Khadinia depuis Paris, tonton Diego Kouate, tonton Imoumaï, grand Issandoy, voilà, Cheikh Ndiaye, Aldo, Emile, Adam Lay, Pape Lay, Aïssatou Dembélé, waaw, yeen ñep ñep ak isbir quoi, yeen ñep.
Buñu xamone li ma xam ken du xaar ñu soñu la nak. Corona mo gëna gaaw bayiwul gone xale mak. Santu war nañu nak di melul ni rew yi ñu mak. Waye nañ la fasu gaaw tu jobala gëna mak. Moy ki da fegi bakari ak balaayi jañal. Rew mi ñep la joy yow lu bon xamula. Yerna dem ji mu yor jam ñi mast dañ ki téral adama ngi ku bew yow la yalla def na la gor xel mu reey mi nga yor jëm lo ko santulu dul mo te ko op mbir ray ko doore jël lam yor bayi len nu ta guer seni guer ngir yeeno ko tal togn sa bop ta togné bu yalla li bum nu dal ay dogal la ko lok sew sew ay bala bi ma gis war na no yaru it yalla wan na no banu gis lepp ñun la nañu jema soppi ku doxalin ta top ndigal yalla sopp.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Merci encore Richard pour tout et maintenant je vous laisse avec l'imam Ahmed Ndiegen.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Su ko defé nak ñu déllu ci rek di fatali li nga xamanteni mom lañu bok, li nga xamanteni mom modi suñu patrimoine nga xam ni Yalla daf ñu tanal bopam daadi ñukoy jox ndax da wax ni ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yalla su ko neexoon mu ne yeen sama jaam yi, su ko neexoon mu ne yeen mbindee fi, waaye dana yeen ñi nga xamanteni gëm ngeen ma. Mu mel ni kon nag am na ñu mu tànn pour ñu def weeru koor, am na ñoo xamanteni ñoom la baaxe xéwal gi nga xamanteni moom moo nekk ci woor weeru koor tabarakallah. Tey nag mu am yenn point yu ma bëggoon ñu waxtaan ci rek. Yàgg nañ ci waxtaan sax, waaye xanaa fàttali rek, ndax fàttali jariñ na wala boog dafay jariñ ki gëm. Wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Ñu fàttali mbiru kafaara, koo xamante ni dog nga benn bis te tey ko ci nga xamante ni moom lañu wax ni ku ko def sa koor yàqu na, nee nañ bu boobaa di nga fay bis bi. Waaye am na ñetti façon de réparation yoo xamante ni ben nga ci choisir mo xam su fekkenti ni jamono bi jam di am nga libérer ben jam wala tabarakallah nga wor ñaari wèr pour réparer ben bis wala nga set 60 miskin ño xamanteni tabarakallah dañu ñak nga jox len luñu lek kenn ku ne nga jox ko mud su ko defé nak bo gisé tamit point bobu affaireu libérer ben esclave bobu xamna ni bobu rek jaron na sax ñu taxaw ci touti waye buñu yalla mayé ba banen yoon man nañ ci delu ci waye l'islam dafa instauré won ben système bo xamanteni da fay aboutir ci jéxal affaireu esclavage mu melni kon nak buñu yalla mayé banen yoon man nañ dé point bobu modi point bo xamanteni point bu sensible mu melni kon su fekkenteni da nga manké ben jour ta tayoko koku da ngay fay ben fan wala bok nga fébar wala nga nek ci tukki wala yi nga xamanteni yag nañ ko wax rek bo baba ba da ngay fay ben fan wala nga magget da ngay fay ben fan su fekkenteni da nga fébar da nga mëna rattraper bu koor gi passé nga rattraper su fekke da nga fébar bo xamanteni manato wor sa giru dund bu boba da ngay def itaam bis bu ne nga leel ben miskin manam ben miskin nga jox ko lumu lek su fekke da nga magget tamit ak yu demé ni ki non waye su fekke man nga rattraper bu koor gi passé koku dañ wax ni bu koor gi passé da ngay fay ben fan waye kafara nak moy tay ko nak dadi arrêter sa koor wala nga def liñuy téré ci beccu wéru koor bu boba fokk nga def kafara ginnaw bo fayé bis bi ba paré manam libérer ben jam wala nga wor ñaari wèr shahrayn mutatabi'ayn wala it'amu 60 miskinan nga jox 60 miskin liñu lek mu am benen point tamit bo xamanteni ci vocabulaire wéru koor la bok liñu wax al i'tikaf i'tikaf nak moy teju am fan yu neew ci gud ci wéru koor yo xam da ngay teju di jaamu yalla i'tikaf nak borom xam xam ni dañ wax ni ci jakka ji lay am yenent bi da nan def sallallahu alayhi wasallam fukki fan yu mujj ci wéru koor da fay teju ci jakka ja ba at bi mu mujj dundu ci kaw suuf manam ñaar fukki fan la ko def yo xamanteni dafa teju ci jakk ji borom xam xam ni nak nenañ li gëna neew ci i'tikaf moy ben fan amna ñu ne da ngay teju ben bis ci jakk ji manam ngay jaamu yalla rek amna sax ñu dem bané sax ben waxtu sax dinañ ko def i'tikaf waye yalla daf def ren nak jakk yi dañoo teju mu melni kon i'tikaf kon ci kër yi lañ koy def su ko defé bu le yalla may tamit nga mëna teju ay fan ci sa kër nga jaamu yalla tabarakallah teju bi sax amna xana teju ci kaw teju lay doon tabarakallah ak confinement bi waye bo manul def lolu tamit nga am ay waxtu yo xamanteni da ngay wétal sa borom même su fekkenteni yaangi sa bir kër nga bari say astaghfirullah bari say salatu ala nabi bari say la ilaha illallah bari say subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bari la hawla wala quwwata illa billah yu demini ki nonu wala ngay jang alquran bo manul jang alquran tamit ngay deglu alquran waye alquran meme boko manta jang ni kurama di jema ijeentu di jema xolantu di jema gestu lolu tamit tiyaba bu reuy mo ci nek tabarakallah mu melni kon i'tikaf mi ngi nonu ngeen gor gorlu ci baye ci xel yeen ñep tabarakallah mu am banen terme tamit bu bok ci vocabulaire wéru koor mu di laylatul qadr muy fan yi nga xamanteni fukki fan yu mujj dañ yaakar ni ci la laylatul qadr nek waye laylatul qadr yi tamit man na nek ci guddi gu nek ci wéru koor yalla rek mom mo xam waye ñu gor gorlu ci jaamu yalla ci guddi ndax yunus sallallahu alayhi wasallam neena man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi neena so taxawé guddii wéru koor guddii manam beccëg ya ngay wor waye guddii ngay nafilé di jaamu yalla te gëm yalla rek tax nga diko def bëgg yiw di sakku yiw rek motax nga diko def neena yalla dina la jéggal lepp lo jital ci ay bakkar dina la jéggal lepp lo mujjé tamit ci say bakkar mu melni kon loolu tamit amna solo e qiyam ramadan nak taxaw ci guddi wéru koor di jaamu yalla du rek ci jakkaja lañ koy défé ci kër gi tamit man nga am sa nombre de rakka yo xamanteni chaque guddi nga def ko mo xam nga né 10 lay def par guddi do def safak 8 woné 10 bari na nga né da def 8 wala na def 4 wala même boudé 2 rakka sax fekkenté li da nga julli géw ba par nga def sa 2 rakka tabarakallah daldi julli sa safa julli 8 machallah daldi ñaan yak sa waakër def doki lolou yep yu am solo la tabarakallah ndax yenen sallallahu alayhi wasallam tarawih comme ni ñukoy defé ci jakk yi daw ko def mom bu julli wan geew bare rek day dem kërëm ci guddi gi nak mu di jaamu yalla mom ci biir kërëm légui nak la xew ñuy def rassemblement ci jakk yi di julli tarawih te lolou mi ngi xewé depuis ci jamono Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn al-Khattab mo ñew fekk gaay yi di dajalo ci jakka ji di julendo nafila wéru koor mune ni'mal bid'a mune ki day bid'a bu rafet la bid'atun hasana manam luñu sos la waye luñu inventé la ginnaw yenen sallallahu alayhi wasallam mais invention bu rafet la tabarakallah depuis bobu nak le julli di ci aduna bi yeb di dajalo buñu julé buñu ndogo ba paré dem ci jakka ji julli geew ba paré daldi andando def tarawih waye nañu xamni nafila wéru koor du farata ci farata wéru koor waye ngeenel la nak tax yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam e neena man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mu melni kon yoy nak yu ama am solo la da fay appelé di interroger sud manam wala spiritualité koor du rek xif koor du rek grève de la faim koor dafa am spiritualité bu ci nek koor gogou nak spiritualité bobu moy li nga xal lien bi nga xamanteni daf ñu relier ak Allah subhanahu wa ta'ala manam amna ben verticalité bu moy installer entre ñun ak Yalla sunu borom waye amna tamit benen horizontalité manam sunu relation sunu digënté ak mbindeef yi sunu moromu nit yi ba ci bayima yi sax respect bi nga leen wara respecté yenen sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni kooram tere wu ko muy wax lu ko neex di def lu ko neex di jël lu mu momul wala di wax ci deru nit ñi lo xamanteni bëggul ko ko wax ci mom neena fa laysa lillahi hajatun fi an yataraka ta'amahu wa sharabahu neena yalla soxlawul muy bayyi lekkam ak di bayyi nanam ko defé ñu yëm fi ba benen yoon yalla nañu yalla nangul aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li walidayhi wa li walidikum wa li mashayikhna ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اوكي لامين كون افير بانغوك نك ماغي لاي سيت دي سيت دي نويو ريشارد دي نويو غاي ييب رك دي نويو يي تاميت ني دغلو دي نيان يالا يالنا يالا نانغو ليب يالا ماي نيو فك ندغني ديوين تا رافيتو فكين ان شاء الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère.
Donc voilà Richard, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et juste pour vous rappeler que malheureusement à Marseille, nous avons perdu donc un frère, Daouda Niang. Et donc juste aussi vous dire que notre association Diaspora Santé Sénégal, sous la houlette du président Martin Carvalho et les trésoriers qui sont démenés, je nomme Wahab Diop et Draman Camara, ont réussi donc à débloquer 25 000 masques. Voilà, nous l'avons acheté à 12 millions de francs CFA. Voilà, et nous allons les acheminer à l'hôpital de Tambacounda et à l'hôpital de Louga. Voilà, donc Richard, c'est maintenant la fin de l'émission. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci à tous nos intervenants. Et j'emprunte une assertion à Emmanuel Mounier qui disait « Si la politique n'est pas tout, elle est en tout. » Au revoir Richard.
Au revoir Lamine, à la semaine prochaine et nos remerciements à Sidi pour la mise en ligne de cette émission. Place à Étienne pour le magazine d'info de Radio Galère.